des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Mon enfant est difficile, c'est le sujet d'On se dit tout aujourd'hui et on vous attend au 0810 055 056 pour revenir vous aussi sur votre parcours avec votre enfant, petit ou plus grand, qui vous a posé pas mal de soucis, de questions. Un enfant impulsif, colérique, méchant avec vous ou ses frères et sœurs qui n'obéit pas, qui vous provoque, qui vous tient tête, qui fait des bêtises souvent, voire tout le temps, qui frappe, qui se drogue, qui fugue. Alors évidemment pas tout en même temps, mais c'est compliqué pour les parents de sortir de ce schéma, de ne pas culpabiliser aussi, de pouvoir en parler. Aujourd'hui, on se dit tout avec Hervé Curover, qui est notre grand témoin, consultant éducatif à domicile. Et nous sommes avec Sabine en région parisienne. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Tout ça est derrière vous aujourd'hui, mais il y a quelques années, votre fils de 13 ans a mal tourné suite au décès de son papa.
C'est ça. En fait, il a perdu son papa à l'âge de 13 ans d'une maladie longue. Donc il a tout suivi, à 13 ans on a envie de tout savoir et de tout voir, on va dire. Et une année après environ, il est tombé dans quelque chose de plus facile pour lui pour accepter cette douleur-là. Donc il a commencé à fumer des substances illicites avec des copains. Au début c'était un petit peu et puis... ça s'est transformé en beaucoup, beaucoup, à ne plus vouloir aller à l'école, etc., à l'empêcher de tout, quoi, de vivre, en fait.
Il vous en parlait ou c'est vous qui l'avez découvert un peu par surprise ?
Disons que il avait cette capacité-là d'être quand même face à sa problématique et à pouvoir en parler, mais pour lui, ça lui passait un petit peu au-dessus, dans le sens où il ne voyait pas la gravité. Pour lui, c'était le seul moment où il pouvait, comme il disait, voir son père et être en contact avec lui. Je crois que cette substance lui permettait de s'évader, quoi.
Mmh. 13 ans, Hervé, c'est un âge charnière aussi pour les enfants. On n'est plus un petit garçon, on n'est pas encore un adulte. C'est le début de l'adolescence. C'est compliqué cet âge-là, particulièrement. Alors, en plus, avec là, l'événement dramatique qu'il a connu.
Alors, tout d'abord, bonjour Sabine.
Bonjour.
Oui, effectivement, 13 ans, c'est comme disent les psychologues, c'est la sortie de l'enfance, l'entrée dans l'adolescence. Effectivement, avec ce drame, je pense qu'il a voulu compenser la perte de son papa. Et donc, bien dans ce cas-là, il faut mettre des choses en place assez précises pour qu'il arrête.
Comment vous avez fait, du coup, Sabine ? Comment vous avez pu en parler, poser les choses et faire en sorte
Alors, ça n'a pas été tout de suite évident. En fait, j'ai un peu été dépassée. On va dire que j'ai voulu faire les choses un peu toute seule au début, en me disant que je pouvais gérer les difficultés de mon fils, parce que moi aussi, j'étais pas forcément en pleine forme à ce moment-là et j'acceptais pas trop la douleur de mes enfants. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée face à un mur qui était mon fils et je le reconnaissais pas et je ne pouvais pas avancer comme ça avec lui. Avec plein de discussions avec une amie en particulier, on a cherché en fait comment on pouvait faire pour l'aider. Et donc, on est tombé sur le site de Consult Éduc, en fait. Et voilà, ça s'est mis en place assez vite.
Et ça a marché ?
Et ça a marché parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, que ce soit avec moi ou avec lui. Bon, en même temps, j'étais... je devenais une actrice, je veux dire, avec Hervé, en fait, puisque mon fils n'était pas au courant de ce qui se passait. Mais il ne le sait toujours pas d'ailleurs. donc voilà, c'était un petit peu ce jeu de rôle, on va dire, où je me changeais en autre, moi aussi.
Ça veut dire qu'il ne faut pas que les parents aient peur de demander de l'aide, Hervé ?
Bah, je dirais que ça serait même souhaitable. Après, on peut comprendre que par pudeur, et puis c'est quelque part, enfin ne le prenez pas mal Sabine, mais c'est quelque part un aveu d'échec pour son propre enfant que de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. En même temps, depuis un certain nombre d'années, maintenant, il y a des professionnels qui s'occupent justement de l'éducatif à domicile. Je pense qu'on a dû être dans les premiers à faire ça depuis fin 2009. Et effectivement, il y a des effets positifs suite à notre passage.
Merci beaucoup Sabine, merci d'être revenue sur votre histoire, sur votre parcours et on va continuer d'en parler puisque c'est le sujet dont se dit tout, les enfants difficiles avec vous qui avez connu ça également. Appelez-nous au 0810 055 056. Est-ce qu'il y a des âges où c'est plus facile finalement de régler les problèmes ou est-ce qu'à un moment donné si on vous dit mon fils a 19 ans, ma fille a 25 ans, c'est un peu trop tard?
Alors effectivement je dirais que avant 17 ans.
Avant 17 ans.
Ouais. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Moins le problème est grave, mieux c'est. Plus on est capable de se projeter dans l'avenir en fonction du problème qu'on rencontre ponctuellement, mieux c'est. C'est-à-dire, appelez-nous le plus tôt possible. C'est un peu comme une panne de voiture, en fait. Faut appeler le mécanicien avant qu'elle soit complètement déglinguée, si j'ose dire.
Marie est avec nous en région parisienne. Bonjour Marie.
Bonjour.
À 15 ans, votre fils est devenu agressif et provoquant. Vous vous êtes sentie dépassée par tout ça ?
Tout à fait, tout à fait. Nous n'arrivions plus du tout à dialoguer, à nous faire entendre en tant que parents. Il était arrogant, dans une forme de toute puissance. Il nous répondait de façon agressive. Il se mettait en marge de la vie de famille. Il ne participait à rien. Il rejetait tout ce qu'on lui proposait et provoquait en fait en permanence jusqu'à nous pousser à bout. Il nous poussait vraiment à bout.
Alors qu'avant, c'était un petit garçon calme, gentil, mignon ?
Oui. Il ne posait pas de problème particulier. Il a son caractère, mais il n'y avait pas de problème particulier.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pourquoi à ce moment-là particulier à 15 ans ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a l'adolescence qui accentue peut-être certains traits de caractère. Il y a le fait que moi, j'ai eu malheureusement une maladie assez grave qui m'a obligée à être hospitalisée 6 mois et qui a fait que j'ai décroché, entre guillemets, un petit peu au niveau de la rigueur, de la vie de famille, etc. Et puis peut-être aussi un manque d'autorité générale, paternelle aussi. Enfin, moi, je pense que c'est multifactoriel. Et on est arrivé finalement à ce genre de situation et à être vraiment dépassé. Vraiment.
Mmh. Alors, on va forcément beaucoup parler de l'adolescence, Hervé, la fameuse crise d'adolescence. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là où finalement ça peut glisser sur certains enfants et être très compliqué pour d'autres.
Alors, je vais peut-être vous choquer ou vous étonner, mais pour moi, la crise d'adolescence, ça n'existe pas vraiment. Pour moi, enfin, c'est juste mon avis, c'est du marketing en fait, pour vendre des livres. C'est-à-dire que je pense qu'une crise est violente, soudaine et dure peu de temps. Vous pouvez prendre un exemple d'une crise, financière, une crise de nerfs, une crise de foi. Je vois pas comment on peut qualifier de crise d'adolescence un passage qui va de, on va dire, 11, 12 ans à 18, 19, 20 ans.
Ah, ça fait beaucoup, c'est une grosse crise.
C'est une longue crise quand même. Donc je pense que c'est juste du marketing en fait.
Ça veut dire qu'il y a un vrai problème qu'on n'a pas réglé et qu'il ne faut pas mettre ça sur le compte de la crise d'adolescence.
Je pense que c'est juste une case. On estampille un problème en mettant crise d'adolescence et puis voilà quoi, puis débrouillez-vous.
Il a quel âge aujourd'hui votre fils, Marie ?
15 ans et demi.
15 ans et demi ? Ah oui, donc c'est tout récent en fait.
Bah, ça vaut à peu près 4-5 mois, oui. Mais enfin, on voit la différence. Hein. Suite à l'intervention de Monsieur Curouvert, il y a vraiment un changement de comportement. Et ça a été extrêmement rapide.
On a de la chance là, on n'a que des bons retours. Hervé.
Ça marche, il faut le dire. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que quand ça marche, il faut quand même le dire et accompagner après les gens, être reconnaissant vis-à-vis des gens qui nous ont aidés, parce qu'il nous a vraiment aidés, vraiment.
Et votre fils, il a accepté cette aide extérieure ?
C'est-à-dire qu'on ne lui a pas trop laissé le choix au départ. On lui a dit, voilà, il y a quelqu'un, donc une tierce personne, un regard extérieur qui va venir à la maison pour essayer de nous aider. Et ça a été tellement bien géré, en fait, par M. Curouvert que, du coup, c'est passé comme une lettre à la poste, si j'ose dire.
Bah, tant mieux, dites donc, Marie, ça fait du bien d'entendre votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous, Marie. On vous embrasse et puis on espère que ça va continuer, surtout.
Au revoir.
0810 055 056 pour nous rejoindre. Vous aussi, on parle de votre enfant, de vos enfants, difficiles, compliqués, ça se passe pas forcément très bien à la maison, et bien venez en parler, profitez-en, on est là pour ça sur France Bleu. Et nous sommes avec Laetitia à Montpellier. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Vous avez un ado de 17 ans qui fugue et qui ne supporte pas le nom.
C'est ça.
Ça fait combien de temps ?
Ça fait pratiquement 4 ans. Qu'on est dans une situation qui devient une impasse. Voilà, c'est compliqué au quotidien. Il a deux petits frères, mais c'est compliqué au quotidien parce que dès qu'on va lui dire non, ou même qu'on explique ou pas, hein, ne le supportant pas, mais il fugue. Donc ça a été une première fugue, à passer la nuit dehors, à essayer de le trouver, ne le trouvant pas, et puis il revient. Sans forcément d'excuses, et puis le coup d'après c'est pareil, et puis maintenant c'est un chantage de ben tu me le donnes pas mais moi je m'en vais. Voilà, donc on l'a retrouvé une fois à Toulouse, il part à droite, à gauche, on a essayé l'internat, il est en internat actuellement, mais c'est pas compliqué, c'est très compliqué aussi, ça se passe pas forcément bien, donc on a essayé de passer par une assistante sociale. pour essayer de changer tout ça. Voilà. Mais on en est venu même à voir les gendarmes à la maison pour violence, parce que ça en devenait compliqué avec moi.
On l'entend dans le témoignage de Laetitia, oui. Hervé, beaucoup de douleur de la part d'une maman qui se sent complètement dépassée, là.
Bien sûr, et d'émotion également. Bonjour Laetitia. Vous êtes seule avec lui ou il y a un papa
non,
ou un
non,
beau-père?
Il y a un beau-père, parce que son papa est décédé jeune, très jeune, parce qu'il avait à peine 2 ans quand son papa est décédé. Donc il y a mon mari maintenant qui l'éduque et qui est présent pour lui depuis ses 4 ans. Donc
d'accord.
Ça commence à faire. Mais on est, en fait, il a l'autorité, il la respecterait presque plus quand c'est mon mari que moi.
Oui.
Moi, c'est tout simplement un enfer. C'est un enfer au quotidien.
Alors, en quoi l'autorité de votre mari s'impose plus que la vôtre, à votre avis?
C'est un homme, certainement.
Oui, vous savez, ça ne veut rien dire. Si j'ai bien compris, il fait un chantage à la fugue, en gros,
oui,
pour avoir accès à ses désirs. Et il ne passe que par vous.
Il ne passe que par moi.
Bien sûr.
Il attend systématiquement qu'il n'y ait pas mon mari pour entrer en conflit, hein, puisqu'il cherche le conflit réellement pour...
D'accord.
Il a trouvé le point faible, en tout cas.
Ah bah oui, c'est clair.
Dans,
Est-ce que, par exemple, lorsque vous essayez de lui poser une sanction, vous craquez avant la fin, vous lui dites « Allez, oui, d'accord, tant pis ».
Non, on essaie de tenir bon, mais il vous culpabilise tellement.
Il vous culpabilise, vous, pas votre mari?
Voilà, mais même il nous culpabilise
tous les deux
quand même. Oui, c'est on essaie de lui mettre les sanctions, mais même au-delà, même une sanction, il va trouver moyen pour la retourner et qu'il n'en ait pas.
Comment on peut faire dans le cas de Laetitia, là, qui a essayé l'assistante sociale, qui a essayé l'internat, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il y a une solution magique?
Alors là, la solution magique, là, tout de suite maintenant, par téléphone, je suis incapable de vous la donner. Par contre, en fonction de votre région, j'ai un réseau d'éducateurs et d'éducatrices qui travaillent pour ConsultEduc et hors antenne, je pourrais prendre vos coordonnées et vous envoyer quelqu'un. Mais dans un premier temps, vous me dites que votre mari, lui, arrive à mieux poser une autorité. Alors, il y a un mode opératoire que j'ai appelé les mécanismes éducatifs et si vous le permettez, très rapidement, je peux vous l'expliquer. Il y a 5 phases, en fait. Il y a une règle, le bien fondé de la règle. Ensuite, le jeune transgresse, la transgression. Il faut une sanction adaptée. Alors, je ne sais pas quelle sanction vous posez quand il fugue, par exemple, ou qu'il vous manque de respect. Ça, c'est à travailler ensemble. Et puis, il y a le temps de la frustration, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous le privez de téléphone ou de sortie. Voilà, c'est
ça
ce
peut marcher.
Ça marche plutôt pas mal, en général. Mmh. Et ensuite, il y a la phase finale, sur un temps calme, au moment où on va lui restituer le droit de sortir, lui rendre son téléphone, ce que j'ai appelé la reformulation. Le fait qu'il formule la raison pour laquelle il a été sanctionné, ça lui permet de conscientiser cette raison-là. Même si finalement, il vous dit ce que vous avez envie d'entendre pour récupérer son téléphone, sa tablette, la PS4. Mais c'est pas grave.
Ça marche quand même.
Ça marche. Mais voilà, ça c'est vraiment à titre indicatif. C'est pas la solution magique là tout de suite maintenant.
On prend vos coordonnées, Laetitia, et puis on essaiera de vous mettre
tout à
en contact. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laetitia. On vous embrasse et bon courage et merci d'avoir appelé, d'avoir eu le déclic de se dire voilà, on regarde pas ça pour nous et on en parle même à la radio. Nous sommes avec Mathilde dans les Landes. Bonjour Mathilde.
Oui, bonjour.
C'est bien aussi d'avoir l'autre côté parce que vous avez été une enfant difficile.
Oui, j'ai été une enfant qu'on appelle justement difficile et je vous avoue que j'aime pas trop ce terme parce que derrière ces enfants, il y a un mal-être qui est réel et présent au quotidien. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que souvent, ces enfants ont un tel comportement parce qu'ils sont incompris ou on ne veut pas entendre le mal-être qu'ils ont au plus profond d'eux. Et c'est réellement pour ça, je pense, qu'on a un tel comportement.
C'est une sonnette d'alerte peut-être aussi.
Ah,
c'est dire, écoutez-moi, regardez-moi, aidez-moi, non, Hervé?
Bonjour Mathilde.
Bonjour.
J'ai une première question. Quel âge avez-vous maintenant?
Alors aujourd'hui, j'ai 23 ans.
Ouais, mais alors je suis à 1000% d'accord avec ce que vous dites. Elle a tout résumé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que parfois, quand on arrive à trouver la raison de la rupture, d'une colère, d'une frustration, je veux dire, l'injustice n'est pas toujours du côté de l'enfant ou de l'ado. Parfois, les cadrans, c'est-à-dire le couple parental, les professeurs, ça peut être un entraîneur dans un club de sport, ça peut être une tierce personne. Parfois, ils sont injustes. Manque de respect aussi vis-à-vis des enfants et des ados. Et en échange, ils exigent le respect. Ça ne marche pas dans un seul sens. Ça ne marche que dans un seul sens. J'avais envie de vous poser une deuxième question. En quoi vous êtes-vous sentie incomprise à l'époque?
Bah moi, à l'époque, en fait, j'ai vécu une situation très, très, très compliquée. J'ai quitté mon pays très brutalement et mon père. Et donc, il y avait une incompréhension de ma famille entière, que ce soit ma mère ou mon entourage. Et personne n'a compris qu'il y avait un mal-être, qu'on avait eu une rupture, qu'on avait vécu un choc, au final, très important. Et étant donné que j'ai été incomprise, c'est vrai que j'ai eu des crises d'hystérie, à tout casser dans la maison. J'ai été envoyée dans de la famille parce que ma mère ne me supportait plus. Jusqu'au jour où j'ai dit stop, et parce que j'y arrivais plus physiquement et mentalement. Et j'ai dû en arriver à écrire au procureur de la République pour être placée en famille d'accueil, quoi. Donc, pour vous dire à quel point...
Mais vous avez réussi à en parler à votre mère, par exemple ? Vous avez essayé de mettre des mots là-dessus ?
Mais justement, encore aujourd'hui, après toutes ces années, donc moi, j'ai été placée à 17 ans, donc très tard. Encore aujourd'hui, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, et elle se fait passer pour la victime sans comprendre vraiment... ce qu'on a pu vivre et comme on a pu être choqué en réalité, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué de l'expliquer aux gens, et il y a un moment donné où on est obligé d'agir pour se protéger nous-mêmes, et c'est là que c'est le pire, parce que arriver à se faire placer en famille d'accueil de son propre gré, autant vous dire que c'est une étape très difficile dans la vie d'un enfant, qu'on soit près de la majorité ou plus jeune. Et je peux vous dire que ça a été une épreuve. Mais en général, les enfants comme ça ont énormément de caractère et veulent encore plus réussir que les autres, quoi.
Ça fait du bien d'entendre votre témoignage. En même temps, ça fait peur. On se dit que finalement, la solution, elle n'est pas très très loin, Hervé. Si on a un peu d'écoute, si on recule un petit peu, si on regarde les choses différemment, on peut peut-être la trouver, la solution.
C'est un peu notre rôle, effectivement. Après, cette jeune femme, Mathilde, doit avoir une force de caractère un petit peu hors norme. C'est assez exceptionnel comme histoire, mais bravo, en tout cas, félicitations.
Merci d'avoir été avec nous, Mathilde. C'est bien, on parle des enfants difficiles, entre guillemets. Hein. Vous nous avez dit que vous n'aimez pas trop le
non, mais
terme.
Je suis assez d'accord avec elle. Difficile, c'est... Voilà,
ça veut rien dire.
Ça veut tout et rien dire. C'est un tiroir, encore.
Mais c'était bien d'avoir aussi le côté enfant, avec Mathilde, qui est devenue grande aujourd'hui. À bientôt, Mathilde. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Marie est avec nous en Saône-et-Loire. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
On va parler de votre fils de 15 ans. Vous avez des relations tendues avec lui, et avec son papa, c'est encore plus difficile.
Oui, tout à fait. Alors, ça fait plusieurs années, parce que bon, Victor, c'est pas un très bon élève en fait à l'école. Et puis, depuis des années, je suis après lui pour l'aider dans les cours de soutien, lui demander si ses devoirs sont faits. Être sur son dos à plein temps, c'est ce qu'il me dit d'ailleurs. Et son père a été assez distant dans les relations. Donc là, aujourd'hui, il a passé en fait en seconde. C'est vrai que cette année, c'est une année charnière encore une fois, parce que là, c'est des choix d'orientation. Il est suivi par un pédopsychologue depuis juste la fin de l'année dernière, de l'année en troisième. Mais malgré lui, en fait, il y va pas de son bonne volonté, de son plein gré, mais il y va quand même. Moi, j'y vais aussi. Je vais demander au papa de commencer. Il a des cours de soutien, mais j'ai l'impression que j'ai en face de moi une huître.
Déjà, en 15 ans en seconde, c'est que ça va pas si mal, Marie. Il n'a pas redoublé, votre fils ?
Non, pas encore.
Non, mais déjà, il faut se le dire, c'est pas mal. C'est pas le cas de tous les enfants. Pour quelles raisons vous avez décidé d'aller voir un pédopsychologue ? C'était quoi la raison principale ?
Waouh ! Frustration totale. L'année dernière, j'ai vraiment eu du mal. J'étais à deux doigts de la dépression, et lui aussi. Il ne voulait pas redoubler en fait son troisième, et il ne voulait pas non plus prendre la porte, comme disait l'école. En fait, eux, ils m'ont dit tout de suite, nous, lui, c'est à bac pro, il n'y a pas de possibilité de partir au lycée. Alors, je trouve aussi que l'éducation nationale à ce niveau-là est quand même assez réfractaire pour les personnes qui ont des difficultés scolaires. Donc, il a quand même fait des cours de soutien, 12 heures de cours de soutien en plus sur les deux derniers mois de l'école en troisième. Il a fait, je tire mon chapeau, parce qu'il a eu son brevet avec mention assez bien. Mais le début de l'année, en fait, j'ai l'impression que je redémarre à zéro. Et il a accepté quand même d'aller voir le pédopsychologue qui m'a dit, écoutez, on va la suivre jusqu'au mois de Noël, enfin jusqu'à Noël, pour voir comment lui réagit, est-ce qu'il met en place en fait les méthodes, la méthodologie de travail que je lui demande. Il ne le fait pas à 100%, ça c'est clair. Et là aujourd'hui, ça fait depuis le début de l'année, j'ai essayé de ne pas m'immiscer en fait dans ses affaires, de le laisser faire, gérer ça avec son prof de soutien avec qui il a un très bon relationnel. Mais je vois que les résultats n'ont pas été là après les 6 premières semaines de l'école. Quoi.
Hervé Curauvert, l'école, gros mot peut-être.
Non, grand mot.
C'est bonjour, souvent, Marie. C'est souvent source de problèmes et de disputes hein, entre les enfants et les parents.
Oui, là j'ai l'impression que chez vous, Marie, c'est le sujet, ça tourne autour de l'école, des devoirs, des résultats scolaires. Et là vous me dites qu'il est en seconde, mais en seconde générale ou en seconde bac pro?
Général,
d'accord.
Ouais.
Et ces difficultés, l'origine des difficultés scolaires qu'il a, vous avez réussi à les identifier ou pas ?
Très honnêtement, non. Alors, on a fait tous les tests possibles et imaginables pour voir est-ce qu'il a une dyslexie ou autre. Non, ça c'était non. On me dit que c'est un enfant intelligent.
Est-ce qu'il est... J'ai juste une question comme ça. Est-ce qu'il a appris à lire en CP ou avant ?
Non, en CP. Avec des difficultés quand même. Hein.
Des difficultés.
Parce que c'était la méthode globale. Enfin bon, bref, c'était pas.
D'accord. Oui, donc il serait pas précoce intellectuellement a priori.
Non, je ne pense pas. Non, d'accord. Je ne pense pas.
Voilà, moi je sens quand même que vous mettez beaucoup de pression autour de tout ça, Marie, non ? Vous avez pas l'impression de lui mettre un peu la pression à votre fils ?
C'est exactement ce qu'il me dit moi, mais ce qu'il y a, c'est que si je ne dis rien, si je laisse faire.
Non,
ben
mais,
il ne fait rien.
Non, mais il n'est pas question de passer d'un tout à un rien. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être équilibrer avec son papa, un peu vous répartir les rôles.
Papa va peut-être venir au rendez-vous chez le pédopsychologue, on a entendu. Ben oui, c'est ça, c'est papa
vous habitez
que la maman.
Vous habitez en région lyonnaise, c'est ça ?
Non, région mâconnaise. Donc, on est effectivement son père, j'ai essayé de l'emmener à plusieurs reprises chez le pédopsychologue. Je crois que lui aussi, il y va en reculant.
Bah, elle est peut-être là la solution, Marie. Hein. Vous savez quoi ? On va prendre vos coordonnées hors antenne et puis on va voir si on peut faire une connexion avec Hervé, notre grand témoin. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelé. Merci pour ce petit accent absolument délicieux au passage. Nadège qui vient de nous rejoindre depuis la Haute-Savoie. Bonjour, Nadège.
Bonjour.
On va parler de votre fils de 12 ans. Vous dites qu'il est intolérant, il ne comprend pas la discipline.
C'est ça.
Depuis récemment ou depuis qu'il est petit ?
Non, ça fait 3-4 ans qu'il a du mal avec la discipline.
Ouais. Et comment ça se passe alors, du coup, à la maison ? Ça ressemble à quoi ?
Ben, c'est un peu chaotique par moments.
Ouais.
Il y a des moments où ça se passe très bien, il y a des fois où il pète un plomb et il s'énerve pour un rien. Quand on lui demande d'aller ranger sa chambre ou des choses toutes simples, il s'énerve.
Et comment vous réagissez, vous, derrière ?
On se fâche. Je pense que c'est pas bien, mais on se fâche pour qu'il apprenne. Et du coup, on a pris une décision là en septembre. Et il part dans les jeunes sapeurs-pompiers depuis le mois de septembre, parce que son papa est pompier. Moi, j'ai été pompier, donc on se dit ça fait une discipline pour qu'il apprenne à ranger ses affaires.
C'est pas mal ça.
Ses chaussures. Donc là, depuis le mois de septembre, il est aux jeunes sapeurs-pompiers, oui.
Ça peut être une bonne solution, ça, Hervé. Là, par exemple, c'est les pompiers, mais partir sur un autre modèle éducatif, le sport, une autre activité.
Bonjour, Nadège.
Bonjour.
Ah oui, alors les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, c'est super formateur, c'est très cadrant, et en plus, ils sont en lien direct avec le bulletin scolaire, avec l'école. Donc ça veut dire que s'il fait l'imbécile à l'école, il ne va pas pouvoir rester très longtemps chez les pompiers.
Ah.
C'est une super idée.
Ouais, et ça a commencé ou ça va commencer ?
Non, il a commencé en septembre. Ouais.
Et alors, ça donne quoi comme résultat ?
Ça lui plaît. Il est bloc là-dedans. Il est bloc dans le sport parce qu'en première année, ils font que du sport. Donc, ça lui va bien.
Et est-ce qu'il a des soucis par rapport à l'autorité, à la discipline chez les pompiers ? J'imagine que non.
Non, parce qu'il n'a pas le choix.
Et à la maison, il a le choix alors ?
On va dire ça comme ça, oui, parce que son papa est très strict et moi, je suis assez souple. Donc,
alors ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser quand on n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants, quand il y a une maman cool, un papa strict ou l'inverse. Hein.
Là, les deux ont l'air stricts, en fait, si j'ai bien compris. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Quelle différence y a-t-il entre l'autorité et l'autoritarisme ?
J'ai pas compris, excusez-moi.
Quelle différence y a-t-il entre l'autorité et l'autoritarisme ? Puisque vous vous décrivez en étant très strict.
L'autorité, ce serait qu'il prenne un peu du grain dans sa tête. Et l'autoritarisme, qu'on soit un peu plus dur avec lui, pas dur, façon de parler, hein,
alors,
mais qu'on soit un peu plus cadrant avec lui.
Alors, je vais juste vous donner la réponse très, très rapidement. C'est... L'autorité, ça repose sur la raison. Il faut qu'il y ait une raison d'interdire quelque chose. Et quand il n'y a pas de raison, ça s'appelle de l'autoritarisme. Voilà.
Voilà, tout simplement.
C'est pas moi, c'est Saint-Exupéry qui a écrit ça.
Mais moi, je vous posais la question, Hervé, quand on est un couple et qu'on n'est pas d'accord sur l'éducation
très bonne question. Alors,
là, par exemple, Nadège nous dit qu'elle est plutôt cool et le papa est plutôt strict.
Oui. Alors, on a le droit de se contredire, mais surtout jamais, jamais, et ça, c'est la règle de base, jamais devant les enfants. En dehors, oui, il n'y a pas de souci, en aparté, mais jamais devant. Si deux parents qui se contredisent devant un enfant, l'enfant instinctivement connaît la faille, tout de suite.
Ça arrive, Nadège ?
Oui, ça arrive, oui, bien sûr.
Que votre mari dise quelque chose et que vous passiez derrière, c'est pas grave.
Donc, il s'appelle Alric, le grand, et il me dit, puisque c'est comme ça, je vais voir papa.
Ah bah voilà.
Bah ouais, mais ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Mais moi, je crois beaucoup dans les pompiers. Hein. Vraiment,
oui,
là,
oui,
ça peut le faire. Merci beaucoup, Nadège, d'avoir été avec nous. On vous remercie pour votre témoignage. Hervé Curevert, merci également d'avoir été notre grand témoin. Si on veut en savoir plus sur votre méthode, il y a le site internet consultant-educatif.fr sur la région parisienne. Et puis, ça se développe quand même pas mal en France.
Voilà, tout à fait. C'est moi qui vous remercie.
À très bientôt.
Avec grand plaisir.
Et puis si vous voulez réécouter cette émission, si vous avez manqué le début, sachez que vous pouvez le faire avec notre site internet. Il y a le podcast, il y a le replay sur notre site francebleu.fr. Demain, on change de sujet, on change de décor comme on le fait d'ailleurs tous les jours dans On se dit tout. On se dit que ça vous intéresse, ça vous concerne et on parlera demain.